Père Jean-Michel Tour, bonjour, ravi de vous retrouver sur nos ondes de Radio Maria France.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Et voilà, cette émission est un peu particulière parce que c'est ma dernière émission, parce qu'il y a l'été, puis après parce que je prends une année de pause à Radio Maria. Donc c'est un peu une émission particulière, une émission autour du Sacré-Cœur de Jésus qu'on va fêter ensemble dans l'église vendredi. Et voilà, et j'espère que ce sera la plus belle des émissions, l'émission où on s'invite les uns les autres à se retrouver dans le cœur de Jésus. Et c'est toute la plénitude de la grâce, la plénitude du royaume, elle est dans le cœur du Christ, elle est dans le cœur de notre Seigneur, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, avant de parler du Sacré-Cœur, j'avais envie de parler du cœur, tout simplement, notre cœur, parce que ça fait partie de cette appellation qu'on dit toujours. Et alors le cœur, c'est bien évidemment l'organe physique, et pour des athées, quand on parle du cœur, ils pensent à ça, et il est bien évident que le cœur physique n'a rien à voir avec, en tout cas au niveau de son activité physique, n'a rien à voir avec l'activité spirituelle. Et pourtant, le terme parler de son cœur, c'est biblique. Biblique, Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et donc ce cœur a toujours été bibliquement le lieu de la relation avec Dieu. Et notre cœur, c'est pour ça que le cœur est très important, ça de faire attention à ce que l'on fait de notre cœur, qu'est-ce qui habite notre cœur, comment on prend soin de notre cœur, et en quoi, comme on a tous un cœur, on a tous la possibilité d'entrer dans cette relation avec Dieu et de vivre le royaume de Dieu, le ciel ouvert, le feu nouveau, le souffle, tout ce que vous voulez. C'est dans le cœur que ça se passe d'abord. Le point de départ, c'est simplement que Dieu est amour, et que donc le mystère même de Dieu, c'est une relation d'amour entre le Père, le Fils dans l'Esprit. On a fêté la Trinité il n'y a pas longtemps. On a justement fêté ce mystère de l'alliance, de la communion d'amour qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité. Et nous sommes créés par cet amour pour pouvoir bénéficier de cet amour et pour pouvoir participer à cet amour. Donc nous-mêmes, nous sommes des créatures, comme nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des créatures issues de l'amour, pour l'amour, et des créatures d'amour qui vivons cette réalité-là, qui est, avant d'être une réalité affective, qu'on peut réduire juste à l'affection humaine, c'est d'abord une réalité divine. L'amour est divin. Il va s'incarner dans un déploiement, dans une manifestation humaine, mais la source de l'amour, c'est Dieu lui-même. Et si nous aimons, c'est parce que nous sommes des créatures spirituelles créées à l'image de Dieu, destinées à vivre cette alliance entre nous, mais d'abord avec Dieu. Dieu qui est la source de cet amour dans notre cœur. Alors du coup, on voit que Dieu nous crée par amour, c'est parce qu'il nous aime. La Bible dira, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc c'est l'amour du Père est tellement grand qu'il envoie Jésus s'incarner, mourir pour nous sur la croix. C'est tout le mystère du salut qu'on a célébré dans ce temps pascal. Mais le but, c'est que nous puissions bénéficier de tout l'amour du Père, de toute la tendresse du Père, la plénitude de l'amour du Père. C'est pas juste Dieu nous a aimés et dans l'acte créateur. Il nous a aimés dans l'acte créateur, mais il nous a aussi aimés parce qu'on s'était éloigné de lui dans l'acte rédempteur, et puis il nous aime tous les jours inlassablement dans le don de la grâce, dans le fait qu'il répande le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en nous, et que ce Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Et le fait que le Saint-Esprit soit libre de répandre l'amour de Dieu dans notre cœur nous permet de vivre cette communion d'amour, cette connaissance d'amour de ce Dieu, et c'est ça qui est la vie éternelle. Rappelez-vous, hein, Jésus dit en Saint Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu, le vrai Dieu. Cette connaissance dans la Bible, c'est une connaissance d'amour. Donc on voit que le cœur, il est essentiel. Il est essentiel dans notre vie spirituelle. Et souvent, quand on peut avoir le cœur sec et l'intelligence très déployée, on peut être un très grand théologien et avoir le cœur complètement en pruneau sec. Et il faut d'abord que le cœur soit vivifié, animé, pour pouvoir illuminer aussi notre intelligence ensuite. On va dire que le cœur est donc le lieu du sanctuaire spirituel, notre sanctuaire personnel, où nous retrouvons Dieu, où Dieu réside par son esprit, où Par son esprit, nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. C'est le sanctuaire dans lequel on va. Donc, c'est bien sûr, il y a une part d'affection. Hein, quand Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », clairement, l'affection n'est pas, il n'y a pas un amour spirituel et un amour d'affection. Même si en grec, il y a agapé, philia, eros, il y a différents termes qui s'approchent de trois définitions différentes, distinctes de l'amour. Et l'amour théologal, l'amour de Dieu et l'agapé, évidemment. Mais n'empêche que quand j'aime quelqu'un, quand j'aime Dieu, quand vous êtes tombé amoureux de votre épouse, quand vous êtes ou de votre époux, quand vous. L'amour, vous avez bien senti, et pour le coup, on le sent, que le cœur s'emballe. Et donc, c'est un organe, je ne saurais pas l'expliquer, peut-être que des neurospécialistes du fonctionnement humain pourraient expliquer pourquoi on ressent ça, pourquoi on a cette sensation de dilatation, pourquoi on a cette sensation d'avoir des hormones qui se libèrent à ce moment-là et de bonheur qui envahit, de plénitude qui envahit. Ben, c'est tout simplement l'expérience de l'amour. Et on peut, et on voit dans l'expérience de la Pentecôte, que quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, eh bien, ils sont remplis d'une joie, d'une ivresse, ils ont cette plénitude qui déborde, comme un jaillissement qui est impossible à contenir. Eh bien, donc il y a une part d'affection dans notre relation avec Dieu. Et c'est extrêmement important dans notre prière, d'exprimer notre affection à Dieu en lui disant « Je t'aime, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur » et de lui parler comme un époux, nous qui sommes membres de l'Église, qui est son corps, mais qui est aussi son épouse. L'épouse dit à son époux « Je t'aime » parce que inlassablement, l'époux dit à son épouse « Je t'aime ». Jésus dit à son Église « Je t'aime ». Et quand il dit « Je t'aime » à l'Église, il dit « Je t'aime » à chacun d'entre nous. Et Jésus va axer, vous savez, dans les chapitres principaux de Saint Jean, alors il y a le chapitre, il y en a beaucoup, mais il y a un noyau dur qui est 14, 15, 16, 17, et où il y a vraiment un gros, ce n'est qu'un discours de Jésus, c'est que la parole de Jésus, c'est moins factuel, mais c'est vraiment le testament spirituel de Jésus. Et Jésus dit en Jean chapitre 15, demeurez en mon amour. Hein, c'est-à-dire que l'amour de Dieu est presque un lieu ou un état dans lequel on doit demeurer. En fait, demeurer en lui, c'est demeurer en son amour. Demeurer en union avec sa personne, c'est demeurer dans son amour. Dès l'instant que je mets la main dans le feu, ma main brûle. Mais dès l'instant où je me mets en contact avec Dieu, l'amour de Dieu m'envahit. Et à condition d'intégrer cette dimension de l'affection qui fait partie de notre nature humaine. Et de ne pas enfermer la relation avec Dieu dans une religiosité qui serait finalement factuelle dans le fait de prier simplement, mais de prier de manière intellectuelle, si vous voulez, sans y impliquer notre affection. La Vierge à Medjugorje dit justement « prier avec le cœur ». Elle ne cesse de le rappeler, sans cesse, « prier avec le cœur ». Et du coup, on se dit « mais c'est quoi prier avec le cœur ?» Moi, quand je suis allé à Metz, il y a quelques années, je me suis dit « est-ce que je prie avec le cœur ? Est-ce que je prie avec mon affection ?» Est-ce que je prie avec, mais c'est pas que de l'affection émotive, c'est aussi le désir, c'est la volonté profonde, un désir qui est éveillé par le Saint-Esprit et une volonté que je mets en œuvre d'ouvrir mon cœur, de chercher cet amour comme un bien-aimé cherche l'amour de sa bien-aimée. Et donc il y a un désir qui va susciter une recherche. On est loin de j'ai envie, j'ai pas envie. On est loin de, entre guillemets, l'amour. L'amour passionnel, c'est pas dégradant quand je dis ça. Juste rechercher la sensation pour la sensation ou l'émotion pour l'émotion. Dieu va animer un désir, non pas une envie. Dieu va animer un désir profond qui est celui de la plénitude, celui d'être aimé. Il va l'animer par un premier toucher, par un premier envahissement, une séduction de son amour. Donc il y a ça, il y a cet aspect-là donc d'affection profonde qui est important dans notre relation à Dieu. Est-ce que j'ai dit à Dieu aujourd'hui, depuis ce matin que je me suis levé, est-ce que j'ai déjà dit à Dieu, le Père, est-ce que j'ai déjà dit à Jésus et à l'Esprit-Saint, je t'aime ? Et parce que de son côté, Dieu l'a déjà dit. Dieu le dit sans cesse. Il l'a dit dans la personne de Jésus, qui est la parole faite chair et qui est un éternel je t'aime à Dieu. Quand Jésus est crucifié, c'est l'éternel je t'aime du Père pour l'humanité. Il n'y a pas plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus. Eh bien, quand le Père donne son Fils, c'est la preuve suprême si, qui qui ne peut pas laisser un instant une âme se dire « Dieu ne m'aime pas ». C'est impossible. Combien même je suis enfermé dans le péché, ou je suis infidèle, ou je ne sais pas aimer Dieu, et bien évidemment on ne sait jamais l'aimer comme Dieu nous aime, mais Dieu ne nous demande pas ça. Par contre, on ne peut pas avoir de doute là-dessus que Dieu nous aime et nous aimera toujours. Et même, on pourrait dire que Dieu aime éternellement, puisqu'il n'est pas dans le temps. Donc même les âmes, s'il y a des âmes en enfer, Dieu continue de les aimer, même si elles sont séparées de lui éternellement. Parce qu'il n'y a pas de non-amour en Dieu, tout n'est qu'amour. Voilà pourquoi, dès l'instant où une âme se repent, se détourne de son péché, s'humilie devant Dieu et désire recevoir à nouveau, restaurer cet amour, Dieu se jette dans la fente qui a été ouverte dans le cœur pour consoler, rétablir, restaurer, envahir d'amour, etc., l'âme. Donc en fait, ce n'est pas compliqué du tout. La conversion, elle est juste, est-ce que tu veux que Dieu accueillir l'amour de Dieu pour toi? Mais ce n'est pas toujours facile de dire oui à cette phrase-là quand on n'a jamais expérimenté. Et une des belles pages de l'Écriture qui nous parle de cet amour du Père, justement, c'est Luc chapitre 15, cet épisode du fils prodigue, où le fils cadet a repris son héritage, et ça c'est vraiment où chacun peut se retrouver dans des épisodes plus ou moins longs de rébellion et d'orgueil et de je fais ce que je veux et je me mets en désobéissance à la parole, etc., etc. Je reprends mon héritage, c'est-à-dire je reprends ma capacité, je me sors de l'obéissance, je me sors de la maison paternelle, je me sors du travail du royaume, et je fais ce que je veux. Et quand le fils cadet, vous connaissez l'histoire par cœur, quand le fils cadet, à cause de la famine, se dit si mon père, les ouvriers ont à manger, je vais retourner chez lui. Et je lui dirai, Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme un de tes ouvriers. Ce faisant, il avance et en fait, son père était toujours là à guetter l'horizon pour le voir, pour voir s'il revenait. Et ça montre bien l'attitude du père. Quand même, nous, on peut passer une journée sans lui dire je t'aime, on peut passer une journée sans peut-être trop prier. Le père est toujours là à guetter que. Le signe de notre ouverture à son amour pour pouvoir lui s'engouffrer dans notre cœur. Et le père se jette en cours vers son fils, le prend dans ses bras, le couvre de baisers. Donc l'initiative, c'est le père qui l'a. Hein, c'est lui qui va courir vers son fils, qui va le prendre dans ses bras, qui va le couvrir de baisers, et qui va ordonner la restauration, la bague au doigt, les sandales aux pieds, etc., etc., et de tuer le veau gras. Et ouais, c'est toujours ça, parce que dans le cœur du Père, il y a cette générosité surabondante pour chacun de nous. Le cœur et l'âme, du coup, on va pas faire de la théologie, mais sont un, on va dire ça. Mais l'âme est plus générale que le cœur. L'âme, il y a l'âme spirituelle qu'on peut appeler aussi l'esprit, et du coup, le cœur va plus se rapprocher de l'esprit, parce que l'esprit, c'est la partie de l'âme qui est spirituel, parce que l'âme, c'est aussi nos émotions, notre volonté, c'est tout ce qui fait notre psychisme, tout ça, tout ce qui anime le corps, l'âme. Donc c'est beaucoup plus large, mais le cœur, ou l'esprit, petit e, au sens biblique du terme, c'est vraiment le sanctuaire de la présence de Dieu, et c'est la partie spirituelle de notre âme. Donc quand on lit « Tu aimeras si entendu de tout ton cœur », eh bien, c'est vraiment de toute la partie spirituelle de ton âme. Et tu aimeras sur ton Dieu de toute ton âme aussi, dit le commandement. Donc, il y a aussi les parties émotionnelles, les parties psychiques, les parties, toutes les facultés de notre être doivent être impliquées dans l'acte d'aimer Dieu. Mais le cœur, c'est vraiment le sanctuaire. Et il y a un enjeu sur notre sanctuaire, parce que c'est le lieu aussi de l'alliance avec Dieu. C'est le lieu où j'ai cette union. L'alliance, c'est une union. C'est une union dont Dieu est à l'origine. Dieu s'unit à l'homme, l'homme s'unit à Dieu. Et l'alliance, comme un homme épouse une femme un homme, il y a une réponse des deux côtés. Il y a un don de soi de l'un à l'autre. Et effectivement, c'est dans mon cœur que je vais me donner à Dieu, et c'est dans mon cœur que Dieu se donne à moi. Et Dieu se donne à moi de manière parfaite dans mon cœur, et il l'a fait, et ça a été même scellé au jour de mon baptême. Il y a la marque du Saint-Esprit qui est imprimée dans mon cœur. Mais c'est un lieu où moi je vais toujours choisir d'aller, et je peux ne pas vivre dans mon cœur, je peux vivre à l'extérieur de mon cœur, je peux vivre dans les capacités, dans la zone psychique, émotionnelle, affective de mon âme, mais pas dans le cœur. Le cœur profond, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence, d'ailleurs, je fais une parenthèse, entre la méditation chrétienne, la prière chrétienne d'adoration, d'oraison, et puis les méditations de type oriental. Voilà, et c'est très à la mode, et même le monde, dans le courant spiritualiste actuel, dit il faut les bienfaits de la méditation, faire le vide en soi, se retrouver soi. Le but de ces méditations non chrétiennes, qui ne sont pas de la prière, c'est de se retrouver soi. Donc c'est de venir rentrer dans son âme et rester dans son âme, mais pas dans le cœur, pas dans la partie spirituelle, pas dans la rencontre avec Dieu. On cherche d'y faire un vide, qui est très mauvais parce que ça peut attirer n'importe quel esprit, sauf celui de Dieu, et c'est un repli sur soi qui a une sensibilité qui provoque un apaisement, mais qui n'est absolument pas une rencontre avec Dieu, qui n'est absolument pas l'accueil du salut, absolument pas l'expérience de l'amour de Dieu, absolument pas la libération de la puissance de la grâce qui nous sanctifie, qui nous purifie du péché, qui nous donne la vie éternelle. Vous voyez que ce genre de méditation, si elle peut apporter quelque chose au niveau immédiat de cette vie humaine, n'apporte absolument rien, et c'est un piège du diable justement d'enfermer là-dedans, parce qu'elle détourne de la vraie méditation qui est celle de la rencontre avec Dieu dans mon cœur. Et on ne peut pas faire une méditation humaine et dire moi je prie, moi je ne sais pas oraison, je ne fais pas adoration, mais je fais de la méditation bouddhique. Je ne peux pas faire de la méditation bouddhiste si je suis chrétien, parce que moi, quand je prie, je rencontre un Dieu. Je ne me rencontre pas moi-même pour moi-même et je ne fais pas le vide en moi-même. Donc faites très attention dans cette espèce de magma spiritualiste actuel qui met un peu la confusion chez certaines personnes. Et qui est assez clair. Nous prions, quand nous prions, nous allons dans le sanctuaire, nous allons dans notre cœur. C'est là que Dieu nous attend, et c'est là que Dieu nous sanctifie, et c'est là que brille la lumière, c'est là que le Seigneur est là. Donc le cœur, c'est le lieu de cette alliance avec Dieu. Évidemment, donc c'est le lieu premier de l'expérience de Dieu, et cette expérience, elle est source de connaissance et de révélation. Donc le cœur va être aussi le lieu de la révélation. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, de révélation, qui nous le fait vraiment connaître, qui nous le fait connaître dans l'intimité amoureuse. Il n'y a pas de connaissance, il y a une connaissance intellectuelle, théologique, catéchétique, et elle est extrêmement importante. On ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un si on ne connaît pas aussi avec notre intelligence. Mais comme Dieu est amour, la connaissance première que nous devons avoir, ou conjointe, c'est parce que l'un et l'autre se renvoient la balle, c'est la connaissance du cœur, donc une expérience. Je peux avoir une connaissance théorique de quelqu'un sans pour autant le connaître avec mon cœur, c'est-à-dire connaître son intimité. Je peux avoir une connaissance de son métier, une connaissance de son histoire, une connaissance des noms de sa famille, une connaissance de sa carrière, une connaissance de ses qualités même. Mais je ne connaîtrai pas les secrets de son cœur. Je ne connaîtrai pas ses sentiments. Je ne connaîtrai pas la caractéristique de son cœur. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Je peux connaître toute l'histoire de Jésus, mais l'histoire de Jésus ne sauve pas et ne comble pas le cœur. Je peux avoir lu toute la Bible de manière intellectuelle, ça ne va pas embraser mon cœur pour autant, sauf effusion d'esprit sauvage. Mais par contre, dès que je rentre dans ce désir d'entrer dans cette relation avec le cœur, avec Dieu, à ce moment-là, voilà. Le cœur, c'est le lieu de la relation. Et quand j'entre en relation, eh bien, celui qui crée la relation, qui crée l'unité, c'est l'Esprit Saint, eh bien, est aussi illuminateur et esprit de vérité qui nous fait vraiment connaître, esprit de révélation. C'est le lieu où la parole de Dieu va être ensemencée. Le cœur va être ce lieu où, quand je lis la parole de Dieu, pareil, je peux lire la parole de Dieu avec ma tête, de manière intellectuelle, comprendre l'histoire, ou je peux la lire pour faire descendre cette parole de Dieu, la méditer, la ruminer, la faire descendre lentement, pour qu'elle la prenne par cœur, comme on dit en français, pour que cette parole habite en moi et qu'elle porte du fruit. Et c'est dans le cœur que ça se passe. Le cœur est encore le lieu de la plénitude. Notre cœur est le lieu de la plénitude. Plénitude du Saint-Esprit, puisque l'Esprit Saint est cette... il répand la gloire et l'amour de Dieu en nous, Et c'est dans le cœur qu'on va trouver ça. Bien évidemment, ça a un effet sur le reste, ça influence le reste. Mais on pourrait dire que le cœur est le point le plus profond et central de notre être, depuis lequel rayonne toute la grâce, toute la puissance de l'Esprit Saint, à la fois d'abord dans notre âme et toutes les puissances humaines qui sont les nôtres, et puis dans notre corps, et puis autour de nous, c'est le rayonnement de la sainteté. Mais le point de départ, c'est le cœur. C'est le fait que Dieu habite notre cœur et que le lieu de la rencontre et de l'alliance, le lieu où la croix est plantée, c'est au cœur du cœur, c'est au cœur de notre sanctuaire. Ce cœur, il se dilate et il se serre. Ah oui, ça c'est une expérience très très humaine. Quand on a le cœur serré, quand on souffre, quand on est, selon votre sensibilité, que vous soyez en sensibilité normale ou hypersensibilité, vous avez le cœur qui peut se serrer facilement si on vous dit une parole dure, ou se dilater s'il y a de la tendresse, s'il y a une expérience amicale ou amoureuse qui est forte. Bref, c'est la même chose. Notre cœur a une capacité d'être à la fois le lieu du bonheur et le lieu de la souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça que j'appelle cette émission Protège ton cœur, ce topo, ou la garde du cœur, parce qu'il peut y avoir des expériences divergentes au niveau du cœur. C'est un lieu sanctuaire, mais qui peut être profané par l'ennemi. C'est un lieu sanctuaire qui peut être habité par des chacals, pour reprendre une phrase biblique. Il ne faut pas laisser les voleurs rentrer dans le cœur pour qu'ils nous volent l'héritage et pour qu'ils nous volent tous les trésors de la grâce, l'héritage du royaume, l'héritage de la dignité de fils de Dieu, l'héritage de la joie, etc. Par contre, le cœur se dilate sous l'effet de l'Esprit Saint. Et c'est comme si la capacité de recevoir grandissait. Alors elle peut grandir et elle grandit parce que le cœur est parfois mis à sec pour pouvoir désirer davantage. C'est toutes les purifications. Où Dieu se fait moins sentir présent alors qu'il l'est toujours tout autant, mais pour qu'on le puisse le désirer davantage. Et pas mal de gens traversent ce genre de purification, ou pour éprouver leur fidélité, leur désir, leur cri vers Dieu, non pas que Dieu soit sadique, mais Dieu veut donner plus. Et il faut pour ça agrandir la maison, et il faut pour ça augmenter l'espace de la tente. Mais un cœur qui est serré, un cœur qui est sec, un cœur qui n'est pas hydraté, eh bien, va porter un mauvais fruit. Et le cœur, il se remplit et il se vide, et je dois faire attention à ce que je mets dedans aussi. Je peux me nourrir, en fait, le cœur va se nourrir de tout ce qui rentre par mes yeux, par mes oreilles, de ce que je dis aussi, même si ce que je dis vient du trop-plein du cœur, nous dit la Bible. Et donc, l'atmosphère de mon cœur va dépendre de qui remplit ma vie. Et là, pour le coup, c'est notre responsabilité de protéger notre cœur. Je peux même dire normalement, mais la fois j'avais une discussion avec quelqu'un qui travaille dans un bar ici, et qui me disait, mon père, vous pensez quoi du black metal? Une musique de rock, mais quand même très très black, pour le coup, très noir. Et bon, ben, je lui dis, moi, c'est pas mon style de musique, et puis ça dépend quel black metal tu écoutes, et ce qui est sûr, c'est que à la fois les harmonies et surtout les paroles des chansons qui sont dites vont influencer, vont te remplir, vont remplir ta mémoire, vont remplir ta mémoire inconsciente. Tu vas avoir ces chants qui vont habiter ton âme, parce que la mémoire ressort la musique régulièrement, et puis va t'influencer, et si c'est une musique mauvaise, eh bien, elle peut t'infester même de démons, etc., selon ce qu'il y a dans une musique. Le diable se sert de la musique de manière très courante parce que c'est quelque chose de spirituel. La musique est spirituelle. Au ciel, la musique chante la louange de Dieu. Sauf que le diable, lui, il a détourné le truc et il chante tout à fait autre chose. c'est normal que tout le monde aime la musique, puisqu'elle fait partie de notre ADN spirituel. Mais attention, du coup, à ne pas se laisser remplir par autre chose que la louange, par exemple, notamment. Et attention à ne pas regarder que des choses qui nous font du mal, et pessimistes, mais au contraire, de regarder des belles choses. Bref, il y a une vigilance du cœur à ce que je mets dans mon cœur. Et l'atmosphère de mon cœur peut changer. Si l'environnement peut... Et influence mon atmosphère intérieure, ma prière, ma déclaration de foi, le fait de lire la parole de Dieu, de regarder les promesses de Dieu, de les déclarer par la louange, de les prophétiser, de louer le Seigneur, etc., vient changer l'atmosphère. C'est pas parce que je suis dans le monde que j'ai une fatalité qui est là, dire oui, mais moi, vous avez vu dans quel monde on vit, avec tous les soucis, etc. L'atmosphère de mon cœur, elle ne peut pas être bonne. Non, l'atmosphère de ton âme, elle peut être inquiète. L'atmosphère de ton cœur, va dépendre de si tu déclares les choses, le royaume de Dieu, et si tu cherches le royaume de Dieu. S'il y a une consécration et une prédominance du royaume de Dieu dans ta vie, malgré l'atmosphère, malgré les tempéraments, malgré les tendances que tu peux avoir, malgré tout ça, malgré les caractères qu'on peut avoir, il y a une pureté qui est celle de l'Esprit, parce que l'Esprit Saint y réside, et il faut, à partir de là, à partir du moment où mon cœur est consacré à Dieu et qu'il est vraiment le lieu de la déclaration et de la prière et j'y prends du temps, alors ça va contrecarrer l'influence de mon âme. Je peux changer l'atmosphère de mon âme, ou je peux laisser l'atmosphère de mon âme se noircir par juste ce qui m'environne. Alors on peut avoir une atmosphère de colère dans son âme, on peut être dominé par la colère, par la jalousie, par l'envie, par les emportements, par les dissensions, les critiques, l'impureté, la luxure, etc., etc. C'est ce que nous dit Paul dans le chapitre 5 de la lettre aux Galates, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que naturellement, le fruit de la chair, excusez-moi. Le fruit de la chair, c'est-à-dire que naturellement la chair, comme elle est marquée par le péché, a cette tendance de ne pas se tourner vers Dieu, mais de chercher ces choses immédiates de la vie et de provoquer un fruit de péché et qui s'oppose à l'esprit et qui s'oppose au royaume de Dieu. Ou alors on peut inversement se remplir et avoir une atmosphère qui est celle du royaume et c'est le fruit de l'esprit où l'atmosphère est une atmosphère d'amour, de douceur, de paix, de joie, de patience, d'humilité, de service, etc. Et ça, c'est le fruit du Saint-Esprit dans mon âme, qui part du cœur, parce que le cœur est rempli, alors il va influencer l'âme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu fait, mais qui nécessite un choix de notre part, un choix permanent. Et ce choix-là, eh bien, on le retrouve dans Philippiens 4.4, qui, pour moi, est la règle d'or de tout chrétien et la règle d'or du combat spirituel. Donc marquez-le, Philippiens 4.4, peut-être que vous le connaissez par cœur, parce que je l'ai quand même beaucoup prêché pendant toutes ces années, et Philippiens 4.4 nous dit, Saint Paul nous dit à Philippiens, « Soyez dans la joie, laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie, ne vous souciez de rien, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu toutes vos demandes, et la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées dans le Christ Jésus. » Donc, vous regardez quoi? La vigilance du cœur, elle passe par des choses concrètes que je dois mettre en place. La première chose, nous dit Paul, c'est le choix de la joie. Et ça, c'est un choix. C'est pas parce que tout va bien dans ma vie. C'est pas je peux appliquer Philippiens 4.4 parce que je n'ai pas de problème, parce que je n'ai pas de souci, parce que l'atmosphère de mon cœur est magnifique. Non, l'atmosphère de mon cœur va être celle du royaume parce que je vais choisir d'appliquer Philippiens 4.4 dans ma vie. Et donc, soyez dans la joie. Et il le redit une deuxième fois, soyez dans la joie. Et donc, c'est une joie qui ne vient pas de la circonstance, ou qui ne vient pas de mon œuvre, ou qui ne vient pas du fait que je n'ai rien à me reprocher, mais c'est une joie qui vient de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, de mon adoption filiale, de sa présence en moi. C'est une joie qui vient du fait que je regarde les choses spirituelles, surnaturelles, qui sont à moi et que je déclare pour ma propre vie. Vous voyez, et quand je regarde le Christ, ben je suis dans la joie. Quand je me regarde moi, je suis dans la désolation. Mais quand je regarde le Christ et ce qu'il a fait pour moi, quand je regarde son cœur transpercé, son cœur ouvert, alors je suis dans la joie. Parce que j'ai confiance, parce que je sais que je suis sauvé, parce que je sais que sa miséricorde est sans faille, parce que je sais que son eau vive me lave et me restaure, et m'hydrate, et me nourrit, et me donne fécondité. Donc première chose, soyez dans la joie. Faites le choix de la joie, même quand ça ne va pas. Soyez dans la joie par obéissance à la parole de Dieu. Je suis dans la joie parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'a sauvé. Et ça, c'est une joie profonde. Même si il y a du souci, une atmosphère qui n'est pas encore totalement joyeuse, d'accord? Mais le premier, c'est le choix de la joie. Ne vous souciez de rien, c'est l'inquiétude. On se fait. L'inquiétude détourne de Dieu. L'inquiétude est à l'inverse de la confiance. L'inquiétude va provoquer l'angoisse, va provoquer la peur, va provoquer et va vous centrer sur vous. Au lieu de confier des choses à Dieu en disant « Père, tu es mon Père et je te fais confiance, je te confie ces choses et je sais que tu prends soin de moi. » Dans les choses concrètes. La foi, elle s'incarne dans nos choses concrètes de notre vie. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, ça veut dire que par avance, vous remerciez Dieu pour l'existence, pour l'exaucement, pardon. Vous rendez grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu parce qu'il vous aime. Vous rendez grâce à Dieu pour le salut. Vous rendez grâce à Dieu pour les choses surnaturelles qui sont les vôtres, votre identité spirituelle. Vous rendez grâce à Dieu parce que vous savez qu'il vit en vous. Donc, joie, refus du souci. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, même quand vous avez péché, même quand vous n'allez pas bien, même quand vous avez toutes les raisons de vous désoler, rendez grâce à Dieu parce que la miséricorde de Dieu est plus grande que votre péché. Rendez grâce à Dieu, ayez des versets phares du style « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé », qui permet, ce verset permet de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour ». Rendez grâce à Dieu parce que son amour est toujours disponible. Ensuite, la quatrième chose, Paul dit « Priez et faites connaître à Dieu toutes vos demandes ». Il faut avoir l'audace de prier pour soi et de demander les choses. Priez pour prendre du temps avec Dieu et demander les choses dont vous avez besoin. Même si votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé, priez et suppliez pour recevoir ces choses parce que c'est une marque d'humilité et puis parce que Dieu veut que vous lui demandiez les choses et en s'inscrivant dans l'action de grâce, c'est-à-dire dans la certitude que qu'il vous a déjà exaucé et que vous prenez juste les choses qu'il a prévues de vous donner. La conséquence de ces choses-là, ces quatre points, joie, refus du souci, rendre grâce à Dieu, prier, demander les choses, c'est « Et la paix de Dieu gardera votre cœur, on en revient encore au cœur, et vos pensées. » Ah, et le cœur et les pensées sont liés. Les pensées vont influencer les cœurs. Les pensées, c'est le siège de la tentation. Et les pensées, elles sont enténébrées par le péché. C'est ce qui est le propre des païens, nous dit saint Paul. Mais par contre, la conversion spirituelle de nos pensées, c'est quand le Saint-Esprit, quand nous amenons nos pensées à l'obéissance du cœur, à l'obéissance de la foi. Donc le cœur et les pensées, le cœur va influencer les pensées, mais attention à ce que les pensées ne viennent pas, par la tentation accueillie, amener le péché dans le cœur. La tentation, elle vient dans les pensées, la tentation ne touche pas le cœur. Mais par contre, une tentation qui est accepter va faire descendre le péché, la convoitise dans le cœur et la convoitise va amener le péché. Et de ce péché-là va après, de ce cœur, le cœur a été noirci, et bien ça va entraîner donc après une changement d'atmosphère dans l'âme, une déception, une colère, un découragement, une désespérance, une culpabilité, une tristesse, et une accusation des autres, etc., et une perte de l'envie de prier, et tout ça, c'est des conséquences dans l'âme, parce que le cœur a été souillé par le péché. Mais par rapport à ça, le cœur doit être lavé à nouveau par le sang de Jésus et par l'eau, et on en arrive au cœur de Jésus. Donc la paix du cœur, c'est le don que nous fait Jésus, et c'est l'effet de la croix, donc c'est le fait du cœur transpercé de Jésus, d'où jaillit le sang et l'eau, c'est la paix du cœur. La paix du cœur, elle vient dans un cœur qui est lavé par le sang de Jésus. Vous savez que nous sommes lavés, purifiés par ce sang qui a racheté tous nos péchés une fois pour toutes. Et nous sommes hydratés comme cette eau vive du Saint-Esprit qui assainit toute chose. Pour reprendre la prophétie d'Ézéchiel 47, hein, vous savez, le temple d'où jaillit l'eau, et qui part dans le désert, qui amène la guérison, qui assainit, etc. Bref, le cœur de Jésus, c'est l'eau, c'est le sanctuaire d'où jaillit, et c'est la source jaillissante de l'eau et du sang et de l'esprit. C'est le triple témoignage dont nous parle saint Jean, hein, ils sont trois à rendre témoignage de Jésus, c'est le sang, l'eau et l'esprit. Le sang qui nous purifie, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle que nous recevons à chaque Eucharistie, le sang que nous invoquons sur nous, et l'eau qui est cet Esprit Saint, le sang qui nous justifie et l'eau du Saint-Esprit qui nous donne la vie éternelle, eh bien ça, c'est toute la puissance de la grâce que nous recevons du cœur de Jésus. Alors on comprend la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, pourquoi Jésus a demandé à ce qu'il y ait une dévotion à son Sacré-Cœur, parce que C'est le lieu de la guérison de notre propre cœur. Et si notre cœur est guéri, et si notre cœur est lavé en permanence, et en permanence voilà, purifié de toutes les souillures qui arrivent quand même à rentrer par le péché, eh bien, alors, à ce moment-là, eh bien, il y a le fruit de l'esprit qui peut se répandre dans notre âme, il y a notre vie qui peut être transformée, changée. Nos pensées peuvent être transformées par un renouvellement spirituel. Le cœur de Jésus devient un modèle pour nous, et nous-mêmes, on devient source jaillissante pour la vie éternelle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Voilà ce que dit Jésus. Celui qui croit en moi. La foi dans le cœur transpercé, comprenez donc bien la foi dans le cœur, dans l'œuvre de rédemption qu'a fait Jésus, la foi dans le sacré cœur, je ne parle pas de la dévotion, hein, parce que la dévotion c'est juste la forme, mais dans le mystère qu'il y a derrière, eh bien, permet que mon cœur soit uni au cœur de Jésus et devienne à son tour une source jaillissante pour les autres. Quelles sont les caractéristiques du cœur de Jésus? Il est doux et humble de cœur, la douceur et l'humilité. Seigneur, c'est pas en se forçant, mais c'est en étant dans son cœur que sa douceur et son humilité, petit à petit, viennent infuser la nôtre. La compassion, la passion pour le royaume, etc. Et puis, la passion pour son père, la passion pour l'esprit, la passion pour les âmes, tout ça vient et dans le cœur de Jésus. La connaissance de l'amour de Dieu et des plans de Dieu sont dans le cœur de Jésus. Alors, unis au cœur du Christ, c'est bien aussi le cœur de Marie, hein, évidemment, le rappel des prières, ça c'est samedi, et puis mon cœur est appelé à être uni aux deux cœurs, et c'est dans ce cœur de Jésus, le cœur de Jésus est ce refuge dans lequel je me blottis quand parfois je suis dans trop de faiblesse. Et puis il y a une belle appellation que on peut dire, si je suis le cœur de Jésus, parce que, vous savez, deux amoureux disent mon cœur, ils disent toujours mon cœur, c'est d'ailleurs un mot très, très parlant, de dire « Oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» etc. Eh bien, pourquoi ne pas dire ça à Jésus ? Tu es mon cœur parce que Jésus me dit à moi que je suis son cœur. Et à la fois dans le sens « Tu es mon être bien-aimé », mais en même temps dans le sens où mon cœur, mon sanctuaire, est appelé à être plénitude de son sanctuaire à lui, de son cœur. Mon cœur et son cœur sont appelés à être un seul cœur. Et comme le cœur est de la Immaculée de Marie et le cœur de Jésus. Et ça, c'est notre appel. Que notre cœur batte au même rythme que le cœur de Jésus. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, et c'est ce que nous avons à désirer également. C'est Dieu qui le fait, mais simplement, quand on sait que Dieu veut nous entraîner jusque-là, alors on peut désirer à ce niveau-là. Ayez cette exigence, mais protégez votre cœur, protégez-le du péché, protégez-le des tentations qui deviennent un péché, protégez-le de la mauvaise atmosphère, protégez-le de l'envahissement de mauvais esprits par des techniques énergétiques et des mauvaises méditations. Mais priez, remplissez-le de la parole de Dieu, fréquentez Dieu qui habite votre cœur, parlez-lui, dites-lui que vous l'aimez, et c'est le lieu de l'alliance pour où il y a tout le ciel qui est présent en nous. C'est ce que je vous souhaite pour ces bonnes vacances. Je vous souhaite un bon été à chacun et à chacune. Et au plaisir peut-être de vous retrouver, peut-être ponctuellement, ou en tout cas après cette année de pause, Dieu voulant, on verra bien toutes ces choses-là ultérieurement. À bientôt, soyez bénis.
Chers auditeurs, c'était notre émission Feu Nouveau avec le Père Jean-Michel Tour. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.